On part pour Jérusalem à présent où l'on retrouve Cathy Bisraor. Bonsoir Cathy.
Bonsoir Bernard.
Cathy, vous êtes conseillère dans les tribunaux religieux en Israël, les Beit Din.
Avocate rabbinique.
Alors voilà, vous m'avez enlevé de la bouche ma première question. Comment dit-on ? Donc vous êtes avocate parce que je crois que... Oui, je vous écoute.
En français, on dit avocate rabbinique. En hébreu, c'est Tohenet Rabbanit.
Et en fait, vous secondez pour la plupart du temps des femmes qui n'arrivent pas à avoir leur guette, qui sont sujets à des pressions, qui sont souvent carrément crapuleux. On nous présente comme des négociations entre mari et femme pour obtenir le divorce. Et en fait, lorsque vous intervenez devant ces tribunaux, c'est souvent parce qu'on est face à des cas qui sont, j'ai presque envie de l'ordre de la rapine, j'ai envie de dire. Et là, vous êtes intervenu dans un cas qui est peut-être totalement inédit pour vous, vous allez me dire si je me trompe, vous êtes intervenu dans un cas qui ne concerne pas la femme, mais l'homme. Et vous allez nous expliquer ça évidemment mieux que moi, mais l'homme, il ne veut pas donner le guet. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve devant le tribunal rabbinique, mais il lui dit, mais c'est parce qu'en France, on m'a dit que je ne peux pas le donner. Moi, je veux le donner. Et alors le gars, il est maintenant interdit de sortie de territoire, il vit en plein cauchemar. Alors, mais pourquoi on lui a dit ça ?
Exactement, c'est l'histoire. En général, c'est vrai, je représente des femmes, mais ça m'arrive de représenter des hommes. Et là, c'est un homme qui m'a contacté, un époux qui m'a contacté, et qui, justement, j'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas donné le guet ? Il m'a dit, mais regardez, mon avocate, les rabbins, les dayanim, tout le monde en France m'a dit, ne donnez pas le guet avant le civil. Et si vous voulez, c'est pas la première fois que j'entends un tel argument. Même quand je représente des femmes et que je parle avec leurs époux, souvent ils me disent, moi, on m'a toujours dit qu'on donnait jamais le guet avant le civil. Et donc, si vous voulez, maintenant, on essaye, et ce que je lui ai expliqué à cet époux, qui en fin de compte a donné le guet très rapidement, ce que je lui ai expliqué, ce que je vous explique maintenant, c'est qu'en fait, en France, contrairement à ce que certaines personnes disent, il n'y a aucune loi qui est écrit dans lequel on doit avoir le civil avant le guet. Il n'y a pas de loi, malgré que le Beit Din de Paris, notamment, dit qu'il y a une telle loi. Quand il y a eu 5-6 ans, on a eu des tels problèmes, il y a eu le garde des Sceaux qui a écrit une lettre très claire, qui a écrit noir sur blanc, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, quelque part, la justice française n'a rien à faire avec le guet, qu'on ait ou pas le guet, ça ne les intéresse pas. Et donc, il n'y a pas de loi qui exige. Et ce qui se passe, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'en Israël, si vous voulez, pendant des années, pendant même des siècles, en effet, on réglait tous les problèmes civils du divorce, du mammon, du patrimoine, avant le guet. Mais depuis quelques années, en Israël, on s'est aperçu que c'était une des raisons des problèmes de mari récalcitrant et une des problèmes dramatiques de Igoun, de ces femmes qui, pendant des années, n'avaient pas leur guet. Parce que les maris disaient « Ah, eh ben on attend de régler le problème des enfants, le problème de l'appartement, du patrimoine, etc. » Et pendant des années, la femme était sans guet. Vous imaginez les problèmes, échette ish, c'est-à-dire qu'elle pouvait avoir des enfants qui étaient même verim, etc., etc. Et donc, en Israël, depuis quelques années, les grands tribunaux, les principaux tribunaux rabbiniques en Israël ont changé complètement de politique et ont dit maintenant, le guet d'abord, immédiatement. Vous voulez plus de votre femme, vous voulez plus de votre mari, c'est fini, l'histoire est finie, il n'y a pas de shalom bayit, d'abord le guet, et ensuite régler tous les problèmes pour éviter. Et le résultat de ça, Bernard, c'est qu'en Israël, je ne dis pas que ça a disparu malheureusement, il y a encore énormément de problèmes d'Igoun, mais le taux, le pourcentage de maris récalcitrants et de problèmes tragiques, dramatiques, a considérablement diminué. Véritablement, même spectaculairement, on peut dire, diminué. On n'a plus de cas dramatiques de refus de guet comme on les a en diaspora. Et une des raisons, justement, ça a été qu'on a annulé, si vous voulez, ce lien dramatique qui était fait entre le guet et le civil, qui permettait, si vous voulez, aux maris ou aux femmes également, parce qu'il y a des femmes également qui refusent de recevoir leur guet, de négocier, comme vous dites, de faire du marchandage, peut-être même pire, pour...
Le chantage, financier, du chantage en réunion, c'est un cauchemar.
Exactement. Et maintenant, ce qu'on dit, si vous voulez, en France, il faut savoir qu'il y a d'autres tribunaux rabbiniques, ok ? Il y a dans plusieurs villes, il y a des tribunaux rabbiniques. Vous avez le tribunal rabbinique à Lyon, à Strasbourg, à Marseille, etc. Également à Anvers, en Belgique, vous avez également, même à Paris, vous avez d'autres tribunaux rabbiniques comme le Beit Din Ichoud Arabanim du Rav Habib, etc., qui, eux, n'exigent pas le civil avant le guet. Ils disent le guet d'abord. également. Maintenant, l'histoire, si vous voulez, c'est que le Bed-in de Paris, qui est un Bed-in très important et très apprécié, évidemment, dans le monde entier, là, il n'y a aucun doute sur la qualité du Bed-in, mais eux, si vous voulez, c'est leur politique. Or, c'est le Bed-in principal en France, hein, qui fait plusieurs centaines de divorces par an, et à Paris notamment. Et donc, si vous voulez, le fait que ce message-là est donné, qu'il faut d'abord le civil avant le guet, eh bien, ce que l'on dit, c'est que ça provoque des histoires qui, pendant des années et des années, une femme se retrouve sans guet, avec tout ce que ça peut représenter.
Alors, les rabbins disent le contraire de vous. Les rabbins, ceux à qui j'ai parlé, m'ont dit le contraire. Ils m'ont dit la chose suivante. Bernard, aujourd'hui, il y a une institution communautaire en France qui est solide, qui est ancienne, et qui surtout, vous avez dit, est appréciée. Moi, j'allais dire surtout qu'il y a l'autorité. L'autorité en raison de ses liens avec l'État, en raison de ses liens avec les autres batédinimes, c'est-à-dire donc avec les autres tribunaux rabbiniques à travers le monde, et que donc quand ce consistoire, en fait, parce que le Bed-in, c'est que dont vous parlez vous, il y en a plein, mais dont vous parlez vous, c'est celui du consistoire, dit ce gars-là est marié, ce gars-là est divorcé, c'est accepté par l'État, c'est accepté par New York, c'est accepté par tout le monde. C'est ce que me disent les rabbins, hein. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Et ils disent, c'est très important, parce que chez nous, on a une tradition de ce qu'on appelle le mamzer. C'est-à-dire que la femme, si elle a un enfant avec un autre homme alors qu'elle est mariée, son fils, il devient un mamzer, et c'est un statut, il ne peut pas se marier, c'est une situation qu'il faut éviter à tout prix. Et ils disent, donc, laissez-nous, oui, vous avez l'impression qu'on a une chasse gardée, mais laissez-nous, ne cassez pas cette autorité qu'on a vis-à-vis notamment des préfectures, parce que c'est très important. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre ?
Oui, absolument. Regardez. D'abord, il n'est pas question de casser l'autorité. Khalila, ce n'est pas du tout l'objectif. Okay ? Maintenant, je vous dis deux points. Premier point, au niveau de la reconnaissance des tribunaux, okay, les autres tribunaux rabbiniques, par exemple le tribunal rabbinique de Lyon, du Rav Teboul, le tribunal que je viens de citer de Paris, qui est le Bed-in Ikhud Arabanim, etc., ce sont des Bed-in qui sont plus petits, mais qui sont complètement reconnus. Ce sont des Bed-in qui sont reconnus par Israël. Ils sont sur la liste des tribunaux rabbiniques. Donc, si vous voulez, au niveau de la valeur halakhique, okay, et on ne peut pas mettre en question, si vous voulez, les autres tribunaux rabbiniques qui, eux, font le guet avant le sigil. Maintenant, c'est exact, si vous voulez, qu'il y a un respect de l'autorité française. Et là, il y a une problématique. Je suis d'accord qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, si vous vous placez dans le monde juif, dans le monde de la halakha, d'accord, vous parlez justement de mamzer, le fait de conditionner le guet au civil, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux vous dire, je suis bien placée, j'ai traité des dizaines et des dizaines et des dizaines de cas de France qui venaient de Paris, d'autres villes, okay, où des femmes n'avaient pas le guet depuis des années parce que le civil, elles ne l'avaient pas eu. Elles ont eu le guet, il y en a certaines même où elles ont eu le guet avec nous depuis quelques années, le civil elles n'ont pas encore eu. Elles n'ont pas encore eu. Et donc, s'il n'y avait pas eu le guet d'abord, vous savez qu'est-ce qu'il y aurait eu? Il y aurait eu des mamzerines en quantité, parce que ces femmes-là, des jeunes femmes de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, elles n'attendent pas la fin du civil pour avoir des relations avec d'autres hommes, parlons crûment, ok? Il y a des gosses au milieu, il y a des bébés qui peuvent naître, et donc ces bébés sont mamzerines. Vous comprenez la gravité de l'histoire. C'est pour ça que l'on dit, ok, très bien, on comprend qu'il y a une problématique avec les autorités françaises, et c'est important de respecter les autorités françaises. Mais en ce qui nous concerne, Bernard, c'est plus important pour moi de respecter la halakha et d'éviter qu'une femme soit à Gouna pendant des années et qu'il y ait des risques de mamzerout. C'est plus important que le respect des autorités françaises, avec kol hakavod. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, nous avons une lettre du garde des Sceaux qui écrit noir sur blanc qu'il n'y a pas de loi qui exige cela. En fait, ça leur est égal, l'histoire. Et donc, la campagne que l'on tente de faire avec beaucoup d'autres jeunes, d'autres femmes qu'on a réussi à sauver également en France, mais dans d'autres pays également, c'est de dire que la révolution qui s'est passée en Israël, il faut qu'elle se passe également en diaspora. C'est-à-dire ce que les rabbinimes, ce que les tribunaux rabbiniques ont compris, de détacher le civil du guet, qui a permis de baisser le pourcentage, pas de l'éliminer, mais de baisser d'une manière spectaculaire le pourcentage de femmes qui n'avaient pas leur guet, et bien cette même révolution, ça a duré 20 ans, hein, c'est pas passé en quelques années en Israël. Ça a fait beaucoup de bruit, ça avait beaucoup de problèmes, etc. Mais en fin de compte, c'est une révolution qui a réussi. Cette même révolution-là, il faut progressivement qu'elle existe en diaspora. Et je vous donne un exemple, en Grande-Bretagne par exemple, eh bien, le Bedin de Londres, qui est un des grands Bedin du monde, okay, applique cette théorie, cette pratique-là, de dire le guette immédiatement, 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 vous voulez plus de votre femme immédiatement. La même chose à Lyon, la même chose en plusieurs tribunaux rabbiniques, okay, dans le monde entier. Et donc, c'est à mon avis, je comprends bien que le tribunal rabbinique de Paris, qui a l'exclusivité, ou peut-être en tout cas l'autorité vis-à-vis des autorités françaises, veuille défendre ses relations avec les autorités françaises, mais je dis, sauver une femme et éviter la même déroute, c'est plus important, ok, que de respecter les autorités françaises qui ne le demandent même pas, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de loi qui exige cela.
Alors, pour bien que tout le monde nous comprenne, hein, parce que vous êtes une experte, mais get, ça veut dire acte de divorce. Si la femme, elle n'a pas son acte de divorce religieux, elle ne peut pas se remarier, il faut qu'elle amène ça. Alors, il n'y a aucun rabbin sérieux qui la remarie si elle n'est pas divorcée, parce que après les enfants entrent dans une catégorie terrible.
Elle ne peut pas se remarier. N'importe quel rabbin orthodoxe, il exige la preuve d'un divorce, la preuve d'un guet, c'est évident.
Voilà, un guet. Juste pour expliquer, c'est quoi le mot guet?
Le guet, c'est le divorce religieux, en effet.
Voilà, ouais. Et évidemment, il y a, comme partout dans le monde, chez les juifs et chez ceux qui ne le sont pas, il y a mariage religieux et mariage civil. Et donc, voilà, c'est ce que vous décrivez maintenant. Mais moi, ce que je veux dire aussi, donc on apprend ce soir avec vous qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes d'une situation qui n'est pas toujours claire. Et l'homme, il dit, mais moi, je veux me divorcer. Mais on m'a dit de ne pas le faire. Et c'est des gens très sérieux. Hein, c'est le consistoire qui me dit que c'est la France qui veut ça. Et moi, donc, j'attends. C'est ce que vous venez de nous raconter. Mais vous savez, Cathy, que ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Moi, j'ai vu des gens, le consistoire leur a dit qu'ils voulaient se marier en Israël, le consistoire leur a dit, vous ne vous mariez pas comme ça. Hein. Et toujours avec le même argument, en disant, et c'est sérieux, il n'y a que nous qui sommes reconnus, même par le grand rabbin d'Israël, il n'y a que nous qui sommes reçus. Hein. Et heureusement que c'est comme ça, ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. Et puis après, en fait,
regardez,
les gens voient qu'ils peuvent se marier à Jérusalem, que ça ne pose aucun problème à personne.
Khalila, je serai la dernière, ok, à dire du mal de n'importe quel bénin du monde, ok. Je sais pas, c'est pas le sujet, Bernard. Le sujet, il est différent. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'exclusivité en diaspora, ok, de bénin ni aux États-Unis ni en France. C'est vrai qu'en France, il y a une situation qui est positive, où vous avez un bénin qui est très puissant, d'accord, qui est le bénin de Paris, ok, et qui est reconnu évidemment, ok, non, par les autorités françaises. Mais au niveau de l'autorité halakhique, vous avez d'autres tribunaux rabbiniques. On ne peut pas dire que le tribunal rabbinique de Lyon, okay, ou le tribunal que je citais, les autres tribunaux, il y a le tribunal du Rav Rotenberg à Paris, etc.
Ah bah
vous
avez
d'autres rabbiniques qui sont orthodoxes.
Ou les Lubavitch.
Et Lubavitch également qui font des guettes. Ce sont des tribunaux rabbiniques dont la valeur halakhique est exactement identique au tribunal rabbinique au Beit Din de Paris. Non seulement identique, mais reconnu également par Israël à part entière. Il faut comprendre. Si vous avez une femme, par exemple, divorce dans le Beit Din, par exemple, du Rav Rotenberg, je le cite comme ça, ce guette-là, il a exactement la même valeur Exactement.
Et c'est pareil pour les conversions.
C'est pareil pour les conversions. Le sujet, il est différent. Le sujet, il est que cette histoire que je comprends, okay, que je comprends, du Beit Din de Paris qui veut respecter les autorités françaises, je comprends l'histoire, le consistoire, etc., toute l'histoire, etc., de relations entre le consistoire et les autorités françaises. Je comprends ceci, et je respecte cela. Mais ce que je dis, c'est que ça a un prix qui est inacceptable, ok, qui est inacceptable pour des femmes en souffrance et des risques également de mains zéros. C'est ça que je dis. C'est pour ça que je dis que il faut donner le message, ok, à un homme, aux hommes, et pas seulement aux hommes, mais aux communautés, que le guet, lorsque vous voulez plus de votre femme, vous le donnez immédiatement. Ça n'a rien à voir, ok. Vous voulez pas de votre femme, vous le donnez le guet. C'est là la cause, c'est écrit.
Ça, tout le monde est d'accord. Il y a même d'ailleurs le Beit Din de Paris, d'accord. Tout le monde est d'accord. Il faut qu'ils en séparent, ils veulent plus vivre ensemble, c'est pareil.
Tout le monde est d'accord, mais vous savez comme moi qu'un divorce civil, ça peut durer 10 et 15 ans, j'exagère pas, j'ai des histoires comme ça. Alors une femme, elle va attendre 10 et 15 ans de pouvoir avoir une relation autorisée avec un autre homme. Non, elle va... Je vais vous dire ce qui va se passer. Il va se passer, c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays également. Elles n'attendent pas. Qu'est-ce qui se passe? Elles n'attendent pas, elles ont des relations, il y a des enfants, il y a des mamzeries, mais voilà. Et donc, ce que l'on dit, c'est qu'il faut changer la révolution israélienne. Ok, on a séparé. Il n'y a pas de divorce civil en Israël, mais il y a les aspects civils du divorce. C'est un petit peu la même chose. Où on a séparé les aspects civils du guet. Cette révolution-là, qui est une révolution qui s'est avérée être une révolution réussie, il faut également qu'elle arrive en France.
Cathy, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes avocate auprès des tribunaux rabbiniques. Est-ce que je peux vous poser une question sur qui est aussi votre domaine d'expertise, parce que vous êtes une intellectuelle, auteur. J'ai annoncé dans le journal ce soir que c'était 700 jours de détention pour les otages. On n'imagine pas la souffrance. On parlait de souffrance. Vous étiez en train d'évoquer ça à l'instant. Et on nous dit... Alors, j'ai l'invité Dov Mamon qui est tout de suite après, donc je vous demande, mais je résiste pas, je vous ai en ligne, je sais que c'est votre domaine d'expertise. Les deux camps qui s'affrontent dans la population israélienne disent, mais je suis toute la population, je m'explique. Les familles d'otages disent, mais toute la population veut qu'on rende les otages, tous, pas un par un. Cessez le feu, stop, khlas, on arrête tout, on veut ramener les otages. Et tout le monde est d'accord avec nous, disent les familles d'otages. Et les partisans du gouvernement disent, mais toute la population israélienne, elle ne fait pas partie des manifestations de gauche, qui d'ailleurs est d'extrême gauche, pas de gauche. Et tous les Israéliens, ils sont derrière Tsahal et ils veulent poursuivre. Et comme je vous ai en ligne, j'arrive pas à m'empêcher de vous demander, qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, Bernard, je vais vous dire, s'il y a eu des dilemmes depuis la création de l'État d'Israël dramatique, je crois que c'est un des dilemmes. Parce que les deux camps ont raison. D'accord, les deux camps ont à 150% raison. C'est évident que ceux qui disent il faut libérer ces 20 ou ces 50 otages, enfin les 20 otages vivants et les autres morts, c'est évident qu'ils ont à 150% raison. Le peuple juif ne peut pas vivre s'il y a de l'autre côté de la barrière des gens en souffrance et des gens qui sont dans les situations avec une organisation terroriste telle que le Hamas. On ne peut pas exister en tant que peuple juif si ces personnes-là restent là-bas. Ils ont raison à 150%. D'un autre côté, ok, la politique, si vous voulez, la position de Netanyahou de dire, ok, si je cède, parce que le Hamas, en échange de ça, veut en fait garder le pouvoir. Si le Hamas garde le pouvoir à Gaza, ok, c'est une catastrophe, pas seulement tactique, mais stratégique pour l'État d'Israël sur le long terme. Et donc, les deux camps ont raison. Et c'est pour ça, j'ai pas de réponse à vous donner. Je peux seulement vous dire que Israël vit une de ses périodes, à mon avis, les plus dramatiques, parce que justement, on est devant un dilemme dans lequel personne, en fait, il faut dire la vérité, ok, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que j'imagine qu'on arrivera à quelque chose qui va se passer. Mais si vous voulez, les deux solutions, soit de libérer les otages et de laisser le Hamas, ça sera dramatique, et de laisser le Hamas, ok, et de ne pas libérer, d'éliminer le Hamas et de ne pas libérer les otages, c'est tout aussi dramatique. Le peuple juif ne pourra pas se regarder en face, ne pourra pas vivre en tant que peuple juif si on a choisi délibérément de laisser 20 personnes. C'est véritablement un dilemme, j'ai envie de dire inhumain. Et Israël vit actuellement, et c'est pour ça qu'il y a une crise totale au sein d'Israël, c'est que Israël vit actuellement ce dilemme-là, et personne n'a vraiment de réponse. Honnêtement, personne n'a vraiment de réponse. Et c'est là, voilà, ce que l'on
dit. On en est là.
Je pense que le malaise, si vous voulez, et non seulement on le sent d'ailleurs en Israël, enfin, je sais que les auteurs français viennent beaucoup en Israël, alors donc ils ont dû le voir, non seulement un malaise au niveau national, c'est également un malaise au niveau de chaque juif, parce que ce dilemme est véritablement terrible.
Alors je vais vous dire, c'est la seule fois où je peux vous dire quelque chose de ce type-là. Les juifs de France aussi vivent un très très grand dilemme, croyez-moi. Et de la même manière que vous dites, historiquement, pour Israël, c'est un des moments les plus importants de son histoire, je vous le dis, Cathy. Les Juifs de France y connaissent aussi un malaise. Ils ont l'impression que c'est le plus important de leur histoire ici en France. Je vous le dis.
Je sais, j'ai entendu, je suis d'accord avec vous. J'entends beaucoup de témoignages de France et je suis d'accord avec vous.
Très très malheureux. Très très malheureux. Et triste de se dire, c'est triste de voir qu'on en est arrivé là. Cathy Bissra, je vous remercie.
Merci
vous
pour votre
de défendre, mais avec plaisir.
Shanatouba.
Gam Lachem. Vous aussi. Et vous qui êtes avocate auprès des tribunaux rabbiniques, bonsoir à vous.